Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la pop sonne-t-elle creux ? 21 juillet 1969, l'homme fait ses premiers pas sur la Lune, c'est la naissance du moonwalk. 2 décembre 1983, c'est sa renaissance, là encore, l'événement télévisé est mondial. MTV diffuse le clip Thriller de Michael Jackson. La pop vient de changer de dimension. Si les années 60 l'ont haussé à des sommets artistiques, les années 80 lui assurent, via les nouveaux modes de diffusion, une forme d'hégémonie. Hégémonie que l'apparition d'Internet, censée favoriser la diversification, ne viendra pas entamer. C'est toujours la musique pop, c'est une tautologie qui est la plus populaire. Pour autant, est-elle considérée comme une culture à part entière et à parts égales ? Tout ce qui brille dans le monde de la musique n'a pas bonne presse. On dit rarement d'un artiste pop qu'il a su rester intègre, que c'est un rebelle. Ce serait plutôt tout le contraire, une somme de compromissions au service d'une musique légère, sucrée, hédoniste et sans fond. Alors la pop sonne-t-elle creux ? Comment démarrer autrement que sur du Michael Jackson ? C'est pas Thriller, évidemment, c'est Billie Jean. Pour présenter nos trois invités, Agnès Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicienne, chanteuse, votre nom d'artiste c'est La Féline. Vous êtes par ailleurs professeure d'esthétique à la Villa Arson à Nice. Et vous avez publié cette année aux éditions La Découverte, Dialectique de la pop. Deuxième invité, Olivier Lam, bonjour.
Bonjour.
Journaliste musique à Libération, chroniqueur régulier pour La Dispute sur France Culture, La Dispute d'Arnaud Laporte. Vous avez notamment publié un article qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était au mois d'octobre. Pop en France, l'air de rien. Voilà, ici, troisième invité, Étienne Menu, bonsoir.
Bonjour. Bonsoir, Henri Gardette.
Rédacteur en chef de la revue musicale Audimat, vous êtes journaliste pour le magazine JQ et vous avez signé cet été sur France Culture dans le cadre de la série musicale une histoire parallèle de la pop française. Alors on commence cette émission avec Michael Jackson, présenté comme le King of Pop, le roi de la pop. Est-ce que c'est pour les uns et les autres un titre mérité ? Est-ce qu'il a été depuis détrôné, depuis sa disparition, Étienne Menu ?
Détrôné, disons qu'il est quand même, ça fait un moment qu'il a plus fait de tube. Même si Justin Timberlake,
la mort n'empêche rien. Hein,
ouais, mais Justin Timberlake avait comment on peut appeler ça, il avait ressuscité un enregistrement de Michael Jackson en 2015, je crois, et ça avait été un des gros tubes de l'année. Enfin, son titre, disons sa définition de la pop reste, à mon avis, d'actualité. Mais son succès et sa façon de faire de la pop a été, sinon dépassé, en tout cas poursuivi, quoi.
Il a quand même une postérité qui est aujourd'hui institutionnalisée, puisqu'il y a une exposition tournante qui est en ce moment au Grand Palais. À voir quand même Michael Jackson, alors même si ce n'est pas une exposition directement sur lui, mais sur les artistes d'art plastique qui ont été inspirés par Michael Jackson, c'est quand même une reconnaissance assez importante, assez spectaculaire, Agnès Guéraud.
Oui, je pense que de toute évidence, la pop a triomphé, enfin, sur le plan de la culture, sur le plan de la légitimation et de cette reconnaissance culturelle. Mais j'ai été frappée, comme d'ailleurs dès l'expo consacrée à David Bowie à la Villette, à la Philharmonie, voilà, on pouvait avoir, si on achetait un billet pour David Bowie, on avait un accès gratuit à Boulez, mais on n'y allait pas forcément. Mais donc, ce triomphe culturel, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément l'équivalent d'une reconnaissance profonde, intellectuelle ou même artistique. C'est-à-dire qu'on va continuer à dire que ça a compté dans la culture, mais la culture, c'est pas tout à fait l'art. Donc, il me semble qu'il est, il s'agit bien de distinguer ici ce qui se passe culturellement et ce qui se passe artistiquement.
Est-ce que ce sont des termes que vous reprendriez à votre compte, Olivier Lam, en partant toujours de Michael Jackson, c'est-à-dire triomphe culturel qui ne s'accompagne pas forcément d'une d'une reconnaissance complète, disons.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on attend toujours effectivement qu'à un moment, on va dire, quelque chose soit récupéré pour passer, on va dire, d'un statut à un autre. Or, je pense plutôt que c'est le monde qui a changé autour. De fait, Michael Jackson n'a pas été remplacé, puisqu'aujourd'hui, il pourrait plus y avoir un roi, entre guillemets, puisque effectivement, la pop n'agit plus sur le monde politiquement, socialement, esthétiquement, de la même manière qu'elle agissait au début des années 80, une époque qui était évidemment complètement différente. Un moment, voilà, je sais pas, un retour d'un capitalisme absolument triomphant après la crise pétrolière, l'essor du capitalisme financier et des sortes de nouveaux héros clinquant d'une nouvelle manière, qui étaient eux-mêmes très différents des héros pop des années 70 ou de ceux des années 60. Et aujourd'hui, on est évidemment dans un tout autre contexte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, effectivement, parler d'hégémonie, en quoi cette hégémonie est plus problématique que jamais, puisqu'on est dans un capitalisme qui est totalement englobant. Et en même temps, elle a jamais été aussi peu, j'ai envie de dire, interrogée. C'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, dans Libération, on parle d'objets de pop. Je sais pas, par exemple, de Mariah Carey récemment. Moi, j'avais envie de le faire. Alors que je pense qu'il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, effectivement, on aurait totalement... ça aurait été complètement déplacé de parler de Mariah Carey dans Libération. Donc ça,
y compris d'ailleurs sans doute sur France Culture, c'est-à-dire finalement parler de pop music, faire une série comme la vôtre, Étienne Menu, cet été, ça témoigne en tout cas. Alors effectivement, c'est ce qui ressort déjà du début de cette discussion, une reconnaissance, mais une reconnaissance peut-être un petit peu molle, c'est-à-dire qui ne propose pas forcément un examen critique très poussé, même si... je vais revenir après vers Agnès Guéraud, c'est justement l'objet de son livre.
Ben, alors, moi, je vais être très honnête, je n'ai pas vu l'exposition sur Michael Jackson.
Mais
ce que j'ai pu observer, c'est que depuis les années 90, il y a dans le monde de l'art contemporain une utilisation des figures pop qui est plus une utilisation, disons, de, je sais pas, leur signe, leur surface et leur, disons, leur placement dans l'espace culturel, mais effectivement plus culturel que artistique. Et il y a souvent une manière un peu cavalière d'occulter leur importance musicale et de ne parler d'eux plus comme des sortes de sacrifiés de la culture contemporaine, plus que comme des artistes, ce qui est un peu dommage en fait.
Alors vous évoquiez tout à l'heure Agnès Guéraud, David Bowie, qui avait fait l'objet d'une exposition, artiste... branché pendant de longues années, les puristes au moment de sa disparition ont évoqué surtout ses premiers albums, et quand il sort Let's Dance, il va subir quand même certaines critiques, c'est-à-dire il a un peu vendu son âme au diable. Est-ce que l'exemple de David Bowie, ce morceau Let's Dance, qui est sans doute le morceau qu'il a le plus vendu, illustre pas justement les contradictions qui peuvent exister dans le monde de la musique, c'est-à-dire à partir du moment où on est populaire et où on fait de la musique pop, il y a une forme de procès en intégrité qui vous est fait.
Alors c'est son morceau qui a peut-être le plus vendu, qui a peut-être le plus marché, mais c'est vrai que David Bowie, c'est pas quelqu'un qui a fait... il a des sortes de tubes, mais il a pas des numéros 1, c'est vraiment ce qu'on appelle...
C'est de la pop, ça.
Bien sûr, mais je trouve ce morceau tout à fait cohérent avec aussi l'intelligence de David Bowie dans toute son œuvre. C'est que c'est un morceau qui nous invite à danser, mais sur un rythme complètement militaire. Il y a une expression d'Adorno dans le bouquin où Adorno parle du bain d'acier du fun. L'industrie, c'est ce qui nous impose le fun avec une espèce d'autorité violente. Et je trouve que dans ce morceau, il y a une espèce de double langage, comme ça, une invitation à la danse et en même temps, c'est une invitation à la mise au pas. Et c'est lié à l'esthétique de Bowie qui est assez ironique aussi par rapport à ce monde de l'Europe totalitaire des années 30 et tout ça. Il a beaucoup utilisé ces signaux-là, ces figures-là dans sa musique, y compris la un peu moins populaire que celle-là, donc dans sa trilogie berlinoise et tout ça, mais Voilà, moi je trouve que ce tube, au contraire, il montre aussi une autre contradiction, mais qui est complètement assumée et consciente de la part de Bowie, entre fun et autorité, fun et domination. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi quand la pop devient mainstream, quoi. C'est que c'est un divertissement qui nous est imposé.
Au moment de la sortie de votre livre, Agnès Garraud, Dialectique de la pop, il y a eu un papier de Jean Rouzeau pour Radio Nova, qui disait notamment ceci: il y a toujours un fossé entre ceux qui crient leur révolte et ceux qui veulent plaire, un clivage entre ceux qui se sont battus pour une revendication directe, forte, comme Iggy Pop, Alan Vega, les Cramps, et en face, tous les malheureux qui ont cédé aux sirènes de l'argent. Est-ce que c'est pas aussi un des procès qu'on fait régulièrement justement aux artistes pop, c'est-à-dire pop dans son acception de populaire, c'est-à-dire qui est très répandu, qui vend beaucoup, que de ne pas être dans une démarche d'intégrité, de rébellion, Étienne Menu?
Oui, effectivement. Bon, après, Iggy Pop a fait des pubs récemment pour, c'était quoi, pour Levi's, pour Nike, je sais plus. Bon, c'est pas forcément le pro. Mais oui, il y a toujours une sorte, on attend du rocker une forme de d'intégrité, comme vous dites, et de pureté, qui pour moi est le contraire de ce qui fait tout l'intérêt de la pop, qui est justement une musique qui, prend le risque de s'exposer aux critiques, aux compromissions, et c'est ce qui la rend belle, enfin ce qui lui donne sa beauté, ou en tout cas son charme, pour moi. Donc,
elle prend le risque ou bien elle s'en fiche un peu, c'est-à-dire qu'elle elle accepte de toute manière toutes les compromissions pour plaire au plus grand nombre?
Tout dépend des artistes.
Ouais, tout dépend des artistes, mais je pense que le principe, c'est d'être une musique effectivement opportuniste, pragmatique, qui s'expose, qui prend le risque et qui sait qu'elle va souvent subir une altération, mais comme son corps au départ est de toute façon un corps un peu creux et blanc, c'est pas très grave en fait, quoi.
Olivier Lab.
Non, mais je pense qu'il y a une sorte de messianisme un peu délirant sur la pureté de l'artiste ou son authenticité. Enfin voilà, à partir du moment où on accepte de s'enregistrer, que je vois comme Glenn Gould quand il a accepté de monter ses performances dans les années 50, déjà on accepte une forme de compromission. Enfin, c'est même pas le mot compromission d'ailleurs est pas le bon. Une sorte de fabrication, une manière de se projeter devant un public potentiel, devant un auditoire qui déjà est une forme de effectivement d'altération. Donc
mais c'est quand même un discours qui a, je ne sais pas s'il est encore présent aujourd'hui dans la critique musicale, mais enfin qui a pu l'être assez longtemps, notamment dans la critique rock.
Justement. Alors c'est un mélange de rhétorique effectivement qui est encore utilisé dans la critique, parce qu'il faut bien qu'on utilise des outils pour arriver à définir les objets de plus en plus compliqués qu'on nous soumet. Et à côté de ça, je pense quand même qu'il y a une part effectivement de religieux. Enfin, je ne sais pas comment dire, l'artiste pop effectivement est. Enfin, typiquement, voilà, cette citation de cette opposition entre un artiste pur qui s'exprimerait depuis ses tripes face à quelqu'un qui n'aurait aucune arrière-pensée ou qui serait d'un cynisme total. D'ailleurs, c'est deux choses qu'on met souvent ensemble, alors que c'est des choses qui sont totalement contradictoires, me paraît complètement déconnecté d'une réalité aujourd'hui de ce qu'est la carrière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans la musique avec une foi en la en l'art qui est total et qui font une musique qui est absolument désinvestie de toute forme de, je sais pas comment dire, d'expression propre ou de radicalité. Donc, je pense que c'est plus que encore une fois, c'est le monde autour qui définit plutôt que les artistes eux-mêmes ou alors eux-mêmes leur manière de discuter avec leur environnement.
Cela dit, cette approche que vous avez tous les trois aujourd'hui au propos de la musique pop, est-ce qu'elle témoigne pas aussi d'un renversement par rapport au regard qu'on peut porter sur elle? Moi, j'avais été frappé, je crois que c'était durant l'été dernier, de voir un documentaire sur Arte qui était consacré à trois groupes, les Bee Gees, ABBA et les Carpenters, où c'était très bien expliqué, c'est-à-dire que ces groupes qui vendaient énormément au sommet de leur gloire étaient extrêmement décriés, quand au mieux ils n'étaient pas ignorés justement par la critique musicale, et on finissait par les redécouvrir quelques années après, en se rendant compte que musicalement c'était quand même quelque chose d'extrêmement riche et créatif, Agnès Garraud.
Oui, c'est marrant, sur le moment, les accuser d'une forme de niaiserie, une niaiserie là encore dominante, insupportable parce qu'elle était dominante. Et progressivement, c'est l'innocence qui est apparue, c'est-à-dire les Carpenters, tout à coup, voilà, cette chanson là des Sonic Youth, Tunique, sur les Carpenters, voilà, c'est très émouvant. On réécoute Calling Occupants et tout à coup, c'est un morceau magnifique. Enfin, de toute manière, ça l'était. Donc, bien sûr que la perspective change au moment où justement les artistes cessent d'être dominants. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte ce phénomène de la domination qui pèse aussi sur le jugement critique, c'est-à-dire que le critique, il a pas envie aussi qu'on lui impose cette espèce d'impact massif, voilà, de l'émotion qui ou de la légèreté ou de la voilà, enfin d'une forme de divertissement. Mais il se trouve que ce sont des artistes qui restent dans l'histoire de la pop, qui restent, dont les œuvres peuvent être encore analysées. On se rend compte qu'il y a une richesse, il y a une profondeur. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que on va réserver le même sort à Angèle, voilà, dans 30 ans, quoi. C'est un petit peu la question qu'on se pose comme critique.
Alors on va justement aller dans un instant sur les artistes peut-être les plus contemporains de la musique pop, mais pour faire encore un petit peu d'histoire, et vous avez parlé de naïveté et de groupes qui font l'objet d'analyses répétées. Ben, il y en a un qui participe sans doute de ce qu'on pourrait considérer comme l'âge d'or de la musique pop. C'est pas Sea, Sex and Son, mais c'est plutôt Sea, Surf and Son.
Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
Trinidad, inside, outside USA.
Australia's Caribbean,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohemian Way,
inside, outside.
Everybody's gone
surfing
USA.
Agnès Guéraud, Étienne Menu, Olivier Lam, est-ce que avec les Beach Boys, pardon, on est dans l'essence de la musique pop?
Ah bah, à mains égards, oui, avec les Beach Boys, mais ce que je parlais des Carpenters tout à l'heure, il y a aussi ce lien au tragique, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un destin tragique. Ou bon, Brian Wilson, c'est clairement une figure, c'est pas un car, enfin on voit pas cette personne comme un carriériste, on le voit comme un
Brian
génie.
Brian Wilson, voilà, quel compositeur.
Des Beach Boys, comme un génie perdu au milieu de sa propre création, et en même temps fascinant, émouvant, enfin tout ce que vous voulez. Et ça compte pas mal dans le rapport critique aussi qu'on peut avoir à la pop. C'est-à-dire dans le rapport esthétique, c'est que ils ont eu des énormes succès, mais ils ont payé le prix. Enfin, il y a quelque chose, tu parlais du religieux, Olivier, qui est presque quelque chose de christique, enfin de sacrificiel, quoi. On est d'accord pour qu'une star comme ça l'emporte, domine, pourvu qu'elle en paye le prix, pourvu qu'à un moment elle soit sacrifiée. Il y a un beau texte de Paco Mielman d'ailleurs sur ça, sur Kurt Cobain.
Olivier Lam.
Oui, non, c'est certain qu'avec avec les décennies, avec l'histoire, les Beach Boys en sont arrivés à jouer ce rôle comme une sorte de concentration de tout ce que la pop aurait effectivement de plus pur à offrir, et dans sa complexité, de son rapport presque céleste à la fabrication de mélodies, d'arrangements, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on s'intéresse, moi je suis arrivé à la pop par le rock, donc forcément les Beach Boys c'est un peu l'ennemi, puisque face à ça, il y avait les musiques radicales, il y avait les musiques en colère, il y avait etc. Et donc, autant de choses qui avaient l'air d'être absentes de la musique des Beach Boys.
Vous êtes arrivé à la pop par le rock.
Oui, parce qu'à une époque, on séparait les deux.
Parce que c'est plutôt le chemin inverse, non? Il semble qu'elle est le plus fréquent.
Ah, je sais pas. En tout cas, dans mon rapport mélomane, quand j'étais enfant, j'écoutais la variété française. Je sais plus si c'est de la pop.
Une forme de pop, peut-être.
Oui,
tu es donc humain, Olivier.
Voilà, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, non, mais voilà, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique de manière un peu passionnelle à l'adolescence, comme beaucoup de gens. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui correspondait le mieux à mon état d'esprit, c'était une musique, entre guillemets, rebelle. Et effectivement, les Beach Boys, à cette époque-là, c'était inenvisageable. Alors, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, que tout ça s'est un petit peu mélangé.
Étienne Menu, vous qui êtes un peu un historien de la musique pop, hein, n'est-ce pas? Bah, si vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. En tout cas, les Beach Boys, ça pourrait être considéré comme l'âge d'or ou un des âges d'or de la pop musique.
Complètement, c'est une certitude. Après, comme le dit Agnès dans son livre, c'est aussi une forme de pop qu'on a un peu muséifiée et qui, pour beaucoup de gens, effectivement, les gens qui sont un peu, disons, les mélomanes érudits de ces musiques, c'est la seule pop possible, alors qu'en fait, depuis les années 70, 80 surtout, puis encore plus 90, 2000, etc., on a eu des formes de pop qui sont pour moi tout aussi légitimes, pas authentiques, puisque la pop n'est pas vraiment authentique par définition, mais cette forme de pop beach boysienne qui a fait beaucoup d'émules depuis, et pas non plus la seule définition possible, et elle est même, ce serait même bien qu'elle puisse s'ouvrir et être un peu reléguée un peu plus loin et qu'on puisse s'intéresser à des formes plus récentes de pop.
Il faut le vernis du temps, en tout cas nous disait Agnès Guéraud, et aussi qu'il y ait une dramaturgie, disons, dans l'histoire des groupes pour oui. qu'ils puissent accéder à une forme de légitimité artistique.
Bah, il y a aussi, je trouve, une dramaturgie et l'histoire de on rappelle en fait que les Beach Boys, après Pet Sounds, donc a été un album extrêmement bien reçu par la critique, etc., Brian Wilson a voulu faire un disque qui s'appelait Smile, qu'il n'a pas réussi à faire. Donc là, il y a cet élément tragique, c'est-à-dire de faire une musique pop donc conçue comme facile, spontanée, juvénile. Et en fait, ça l'a. Il a vécu un enfer et il n'en est pas vraiment ressorti. Donc c'est ça peut-être aussi qui donne à la pop un côté complexe et presque. Enfin, qui obscur, quoi.
Vous parlez de tragédie. Je ne vais pas dire que l'artiste qu'on va écouter maintenant est tragique, mais en tout cas, ce qu'elle raconte dans le morceau qui va suivre, c'est justement l'histoire d'une tragédie. Britney Spears, I Wanna Go, Britney Spears, qui est vraiment une des figures de la musique pop contemporaine, on va dire en tout cas de ces dernières années, qui dans cette chanson raconte justement le fait qu'elle en a marre de tout ce qu'il y a autour d'elle, et on voit notamment dans le clip le fait qu'elle s'adresse à des journalistes en les insultant, en disant en gros j'en ai marre de vos questions débiles, et moi ça y est, je me rebelle, je m'émancipe. Est-ce que c'est pas ça aussi finalement, et je reviens un peu à ce que vous disiez au début Olivier Lab, c'est-à-dire cette musique qui se fait rattraper par un système, et des artistes qui de temps en temps essaient de s'en échapper. Il y a Britney Spears, mais je pensais aussi à George Michael qui avait fait son Freedom, c'est-à-dire là aussi il disait voilà, je veux ma liberté.
Alors, je vais un peu casser l'ambiance, mais je pense que déjà, effectivement, le système intègre le fait que des gens vont à un moment de leur carrière chanter leur émancipation. Donc, alors, évidemment, la musique pop aussi a permis énormément d'émancipation sociale, d'émancipation d'artistes, d'émancipation sexuelle, d'émancipation raciale, etc. Donc, de fait, mais en soi, Britney Spears qui chante je suis en guerre contre les, tout ça fait partie d'un storytelling, ou comme on disait avant, d'une dramaturgie de la pop qui est complètement intégrée, a fortiori dans les années 2010. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs des artistes comme Britney Spears d'interpréter une forme d'émotion très très importante et très pure, puisqu'elle va permettre aux gens qui l'écoutent eux-mêmes de ressentir un sentiment d'émancipation ou de violence, etc. Donc c'est pas du tout pour enlever ça à une chanson comme celle qu'on vient d'écouter, mais en revanche je pense qu'effectivement le système de la musique mainstream aujourd'hui tel qu'elle produit permet effectivement d'intégrer à l'intérieur de l'œuvre, de la proposition et du storytelling tout autour absolument tout de toutes les contradictions, y compris la contradiction de la pop elle-même.
La révolte au sein de la pop, mainstream, je rappelle ça, en gros c'est ce qui est le plus largement répandu, disons Agnès Guéraud, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de la fabrication, en tout cas qui est contrôlé, on va dire, par l'industrie de la pop.
Pas nécessairement. Je pense que quand il y a cette espèce de, c'est un chant qui est lié à une forme de mélancolie du pouvoir, de la mélancolie du dominant. Enfin, quand on écoute certains tubes de rap, ou pas forcément des tubes, hein, mais Kanye West, il chante la souffrance que ça peut être aussi d'être tout à coup très riche, dominant. Alors bon,
Maître Gims qui chante "Je me tire", par exemple, qui dit voilà, j'en ai marre de la célébrité.
Oui, et ce côté, voilà, Lonely at the Top, ça c'est, enfin, je veux dire, c'est tout à fait, en un sens, on ne peut pas douter que c'est sincère, qu'à un moment, il y a quelque chose d'absolument violent et douloureux à se retrouver, voilà, à la vue et de tous et exposé, même si on l'a voulu. Enfin, donc cette contradiction, elle existe et je pense pas que les artistes soient insincères quand ils l'expriment. Et c'est pas tant le système qui leur dicte de faire ça. Après, voilà, le problème, c'est que ça s'intègre aussi à une logique qui est en plus contemporaine, enfin qui est celle de voilà d'une affirmation de soi, d'un côté même identitaire, et qui lui-même est intégré à une logique qu'on peut identifier comme à un moment carriériste chez l'artiste. Donc tout ça, voilà, produit quelque chose d'hyper impur, qui est absolument indécidable, au point que moi il me semble que voilà l'évaluation morale elle est vaine en fait à ce stade. On n'a plus qu'à se demander juste si un morceau est bon ou mauvais, quoi. Enfin, et donc d'être envoyé à la musique plutôt qu'indéfiniment à la posture authentique ou non de l'artiste, parce qu'en fait, c'est sans fond, quoi.
Sur cette affirmation de soi et cet aspect identitaire, vous avez justement consacré un des épisodes de votre série Étienne Menu cet été aux filles dans la pop française. Et je lis le texte qui présentait la série, j'imagine qu'il est de votre main, disait ceci: se présentant au choix comme émancipées, farouches, moqueuses, elles assument autant leur statut d'objet de désir que leur propre désir et jouent à réifier les rapports imposés par la domination masculine. Et j'ai, en préparant l'émission, je suis allé sur une plateforme de streaming de musique en ligne et artistes pop, j'ai constaté qu'il y avait quand même une très grande majorité de filles. Pour revenir sur ce que disait Olivier Lam, c'était la musique pop aussi comme lieu peut-être d'émancipation pour les filles. Il y a quand même très peu, ça commence à émerger davantage aujourd'hui, mais de groupes de filles dans le rock, dans la pop, elles sont très nombreuses.
Alors, c'est une vaste question. Je crois que, historiquement, en fait, je pense que, en termes de marché, la pop devait, aux États-Unis, par exemple, s'adresser plus à un public féminin. On rappelle que, par exemple, les playlists radio viennent du fait que les serveuses d'un bar mettaient toujours les mêmes morceaux dans le jukebox et que dans ce bar traînaient des gens qui travaillent dans l'industrie discographique et se sont dit bah c'est bien, on va prendre une radio, vu que les filles écoutent les mêmes morceaux toute la journée, on va faire pareil à la radio au lieu de passer les morceaux une fois et puis on les repasse plus. Donc il y a une espèce de tropisme féminin avec la pop. C'est hyper caricatural, hein, ce que je suis en train de dire. Et le rock, c'est plus l'affirmation virile, etc. Donc bon, il y a effectivement...
Mais comme toutes les généralités, on trouvera évidemment énormément d'exceptions, mais il y a quand même un fond de vérité.
Ensuite, ces chanteuses pop dont j'ai pu parler, qui sont beaucoup des chanteuses des années 80, étaient quand même assez souvent produites et fabriquées par des hommes. Il y a des figures, Lio par exemple, qui au départ est une toute jeune fille qui finit par... disons, s'émanciper avec la complicité de ses artistes, enfin de ses producteurs. Ensuite, il y a quand même beaucoup, il y a de plus en plus de, enfin la femme dans le rock, les femmes dans le rock par exemple, c'est quand même quelque chose qui est maintenant bien installé depuis, je sais pas, 40 ans environ, avec le punk, il y a eu quand même énormément de groupes de femmes comme, je sais pas, les Slits par exemple, les Raincoats en Angleterre.
De groupes dont je n'ai jamais entendu parler, désolé.
Les Runaways, John Jett, c'est plus connu.
Blondie, ouais.
Mais bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme disait Michel Audiard.
Ouais, mais je... Ouais, je
il y a
je...
tous les girls groups dans les années 60.
Oui.
Et d'ailleurs, qui sont des groupes de pop, mais il y a une phrase de Mary Weiss, comme ça, la chanteuse des Shangri-Las, qui dit qu'elles étaient des rockers, quoi. Elles se voyaient pas... Enfin, on peut considérer que c'est cette musique comme mélodique, mais elles étaient des rockers. Donc ça veut dire une approche de la musique qui est revendicative, émancipatrice. Et ça, c'est dans les années 60.
Ouais,
donc c'est pas tout récent, quoi.
Non, et effectivement. Ensuite, le fait que les femmes, enfin que dans les artistes actuels de pop soient plus des femmes, je pense que c'est une sorte de contingence de playlist Deezer qui fait qu'elles arrivent plus nombreuses sur ces plateformes.
En tout cas, est-ce que ça peut aussi se retrouver dans le propos? C'est-à-dire que, alors même si on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que la présentation que j'en ai faite, hein, et c'est normal, mais le fait qu'il y ait quand même une forte présence féminine, est-ce que ça peut aussi se traduire par je sais pas, des propos féministes? Tout à l'heure, vous parliez d'émancipation sexuelle, Olivier Lam, c'est vrai qu'il y a eu des artistes pop, moi je pense à des groupes comme Frankie Goes to Hollywood, Bronski Beat, qui revendiquaient leur homosexualité. C'est-à-dire, c'est aussi des chansons qui, dans ces cas-là, sont au service d'un propos qu'on pourrait qualifier de politique.
Oui, alors c'est évidemment, c'est des choses qui agissent de manière très souterraine, c'est plus que juste de la représentation, etc. Même si on peut dire, par exemple, on sait que Depeche Mode ou David Bowie ont aider un nombre incalculable de jeunes homosexuels isolés dans leur école, dans leur village, dans leur région, etc., à se sentir moins seuls. Et que ça, ça a joué un rôle, effectivement, je sais pas si c'est de l'émancipation, en tout cas, ça a été vraiment très important socialement. Il y a beaucoup de gens qui disent, la première fois que j'ai vu David Bowie s'habiller en femme, ça a complètement, ça, voilà. Je pense que, effectivement, la pop a charrié, évidemment, des avancées sociales très tôt, même si, voilà, typiquement, la situation des femmes dans la musique est pas beaucoup plus, pendant très longtemps, n'a pas été plus enviable dans la musique pop que dans la plupart des autres milieux. Donc, ça, c'est, et par exemple, vous citiez la forte présence féminine dans les playlists. Bon, moi, j'ai commencé à voir arriver des tops de fin d'année, avec effectivement beaucoup de femmes, et ça me fait penser à ce discours qu'a fait Blanche Gardin quand elle a reçu un Molière, où elle disait, je saurai jamais si j'ai reçu ce Molière parce que c'est l'année MeToo ou si je l'ai vraiment mérité. Et ça, c'est voilà, typiquement, on est sur quelque chose d'un petit peu angoissant, si j'ose dire.
Quand vous dites qu'elle a charrié un certain nombre de propos, peut-être de revendications, est-ce que vous parlez exclusivement au passé ou bien est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il y a encore des choses qui se passent? Et pour évoquer cet article dont je parlais en début d'émission, Pop en France, l'air de rien, où vous évoquiez la nouvelle scène pop française. Bon, tous les 5 ans à peu près, il y a une nouvelle scène. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'artistes qui font d'ailleurs pour beaucoup le choix de chanter en français. Et vous preniez pour exemple notamment cet artiste qui s'appelle Angèle, qui a un de ses titres qui s'intitule « Flou ». Je crois, hein.
C'est ça.
Et vous trouviez que c'était que ça correspondait assez finalement peut-être à définir cette nouvelle scène.
Alors oui, enfin c'est un petit peu un ressort, c'est un petit peu un.
Ouais, c'est vous êtes journaliste, hein,
voilà,
il fallait bien
trouver des petites matières, voilà, typiquement. Mais oui, alors je pense qu'effectivement on est à un moment effectivement où on a une musique qui ne sait pas effectivement autour de quoi elle a vraiment envie de s'engager, autant esthétiquement qu'en termes de discours. Mais si je vais jamais reprocher à la pop de manquer de discours, juste une seconde pour revenir parce que je pense que ce qui est intéressant dans la pop, c'est que on accepte qu'un chanteur pop ou une chanteuse pop ou un groupe soit extravagant. Visuellement, sexuellement aussi. Et je pense que actuellement, par exemple, il y a énormément d'artistes transgenres qui sont en train d'émerger un peu partout dans plein de genres musicaux très différents. Et c'est perçu de manière beaucoup plus normale. Je pense que ça l'est dans plein d'autres couches de la société. Donc il y a une espèce d'avant-garde, j'ai envie de dire, sociétale qui peut se jouer à l'intérieur de la musique.
Y'a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit, et ton corps qui se pleure, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires.
Y'a des bugs dans ma tête,
tes rêves imaginaires.
Y'a des bugs dans ma tête,
quand j'écrase ma cigarette.
Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal.
Voilà, exemple d'un de ces groupes de la nouvelle scène pop française, Thérapie Taxi, Hits Sales. Agnès Guéraud, vous dites que la pop n'est pas creuse, mais qu'elle est perso, les messages qu'elle véhicule sont de l'ordre du personnel. Est-ce que...
Alors, je n'ai pas écrit comme ça dans le livre.
Non, c'est ce que vous nous avez dit quand on vous a appelé. Mais en tout cas, est-ce que ce groupe-là et ce morceau, moi, il me semblait assez, significatif de ce que peut être aujourd'hui la pop, et en particulier la pop française, c'est-à-dire un côté très hédoniste, un petit peu je m'en foutiste, second degré.
Ouais, enfin, en même temps,
qui donne envie de danser. Mais
il y a un pessimisme quand même, puisqu'on parle de hit sale. Enfin, il y a quelque chose de il y a une corruption, il y a quelque chose de corrompu, de pourri là, au royaume de la pop, clairement, qui s'exprime. Donc, je retrouve ma dialectique, même si c'est un grand mot appliqué apparemment à un tube. Mais je crois que il faut vraiment arriver à peut-être accepter aussi que un morceau soit pas représentatif de tout ce qui se fait. Moi, c'était un peu l'exigence que j'avais dans le bouquin. C'était aussi de pas
d'où
identifier.
Son épaisseur.
Voilà, la pop, toute la pop à la pop mainstream. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de pop mainstream, on est renvoyé à des paradigmes qui sont hors du mainstream et qui sont liés à l'histoire de la pop, que ce soit dans ses différents genres, le rock, les musiques expérimentales plus radicales, les musiques électroniques. Enfin, donc il faut Je crois que cet argument du creux, bon déjà ça vient de l'idée de la notion de tube. Là, c'est Boris Vian qui a parlé de tube à propos des succès pour dire, il disait cette chanson est aussi creuse qu'un tube. Donc c'était un modèle comme ça. C'est devenu une expression dans les années 50 pour désigner les succès pop. Mais le creux, bon, c'est aussi ce qui résonne. Donc il faut pas en vouloir au creux parce qu'il est creux. Il faut pas en vouloir à la légèreté parce qu'elle est légère. Pour moi, là où il y a quelque chose de problématique et de douloureux et qui est insoluble, c'est à partir du moment où ça devient autoritaire, c'est-à-dire en effet qu'on dit la pop c'est ça et c'est le dominant et c'est ça que ça veut dire. Et je pense que non, au contraire, aujourd'hui, c'est précisément profitant du fait qu'il n'y ait plus de roi de la pop, qu'il n'y ait plus de Michael Jackson, pour qu'il y ait une infinité de petits rois et reines. Enfin, au contraire, essayons de à chaque fois proposer quelque chose qui négocie un autre modèle d'émancipation ou un autre modèle d'expression. Mais voilà, je pense qu'il faut, c'est pas tant qu'elle soit creuse. Mon problème, c'est qu'elle soit unilatérale. Quoi.
Mais pour rester sur cette idée du creux et pour terminer l'émission, est-ce que vous auriez la capacité, spontanément, on va le voir tout de suite justement, à nous donner un titre qui pour vous, alors un titre de musique pop, mais au sens vraiment populaire, c'est-à-dire qui a marché, et qui porterait un propos revendicatif assez fort. Nous, on a cherché des heures, on a eu du mal à trouver, je suis pas sûr qu'on l'ait fait. Étienne Menu, je vois que vous froncez les sourcils, ça veut dire que ça vous vient pas tout de suite.
Diva de Beyoncé.
Diva de Beyoncé.
Morceau sorti il y a, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Qui, pour le coup, on parlait du fait qu'il faut pas juger la pop de manière unilatérale et surtout que ce qu'elle dit n'est pas unilatéral. Je pense que la figure de Beyoncé avec.
Mais elle dit quoi dans cette chanson de.
Elle dit, je suis une diva. Venez pas m'ennuyer.
C'est oui, un propos elle parle
hyper, voilà, c'est un propos hyper narcissique, hyper égocentrique, enfin qui parle effectivement d'elle-même et qui n'a pas l'air de vraiment s'intéresser aux autres, mais qui justement donne une forme, je pense, c'est mon interprétation, une forme d'émancipation en se disant c'est en t'affirmant et en te pensant libre et toute puissante que tu vas réussir à vivre mieux.
Je ne sais pas si je vais retenir votre proposition, Étienne Menu.
Je suis désolé.
Les deux autres invités ont eu un peu plus de temps pour répondre à cette question. Olivier Lam.
Get Lucky de Daft Punk, qui a l'air de chanter le rien, la rencontre, voilà, mais qui en fait parle du fait d'être ouvert à absolument tous les possibles. C'est ça que chante Pharrell Williams dans cette chanson. En plus, sur un rythme assez lent. Donc moi, je trouve que ramener la lenteur sur les pistes de danse, c'est quelque chose de qui en soi est une forme de radicalité. Et aussi un rapport à la musique du passé et au futur. C'est cet embranchement impossible qui devrait se faire au présent sur une grande mélancolie de notre époque. Voilà, c'est un morceau qui représente extrêmement bien et qui dit des choses de manière extrêmement évidemment insidieuse, mais voilà, pour moi c'est un des plus beaux morceaux politiques de ces dernières années.
Agnès Garraud.
Ouais, alors moi je sèche là, hein. Je pensais à un morceau de Rosalía que j'adore qui s'appelle Aunque es de noche, mais bon, Rosalía est moins connue que Beyoncé, mais
je ne la connais pas non plus.
Voilà, mais elle a un énorme succès aujourd'hui là, notamment avec un tube qui s'appelle Malamente, mais c'est chanté en espagnol, c'est un guitare-voix, voilà, mais chanté avec une attitude qui investi du R&B, de quelque chose de très contemporain, de très mondialisé aussi, il faut bien l'assumer, tout en étant lié au côté spécifique du flamenco. Enfin, elle n'est pas andalouse, c'est tout un problème, mais voilà, et pour moi ça évoque les possibles de la pop, c'est-à-dire aussi, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de beat dans ce morceau, il y a quelque chose de totalement libre dans l'interprétation, et même à la fois en tant que théoricienne et en tant que musicienne, pour moi ça ouvre complètement des possibles.
Bon, alors la réflexion qui a été la nôtre a quand même été relativement féconde. On a eu cette proposition d'un titre en français. Est-ce que c'est de la pop ou pas? Mais en tout cas, qui semble bien porter les préoccupations du moment, c'est Zazie, Je suis un homme.
Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre, en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un seul, puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre, en toute saison, moi je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison. Dans la chambre, salon, moi je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond, je tourne.
crois qu'après ce choix, Étienne Menu ne viendra plus jamais dans du grand monde. Si, quand même, c'est bien, Zazie.
Si, et puis elle est super dans, enfin, elle était super dans The Voice.
Ah ben voilà, donc voilà, ça sauve tout. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Agnès Guéraud, donc je renvoie votre dialectique de la pop qui a été publiée il y a quelques semaines de cela à La Découverte. Olivier Lam, on peut vous lire dans Libération, on peut vous écouter de temps en temps dans La Dispute d'Arnaud Laporte. Et puis Étienne Menu, Audimat, vous en êtes le rédacteur en chef et on peut également vous lire dans le magazine JQ. Merci à l'équipe du Grain, Guillaume Laguigné, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Le Duo, Antoine Dulster. Émission réalisée par Peyre Le Gras, avec à la prise de son d'Alia. Voilà, on se retrouve demain à 18h20 pour Du Grain à Moudre. Tout de suite, c'est La Dispute avec Arnaud Laporte.